Matin, on va juste prier en commençant. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour cette église, Seigneur. Pour ce temps, Seigneur, où on peut se réunir ensemble. Où tu peux parler à nos cœurs. Où tu peux nous encourager. Afin que lorsqu'on retourne dans la société, dans nos familles, dans nos foyers, on garde ta présence dans nos cœurs qui nous fait du bien. Qu'on soit encouragé, qu'on soit relevé, qu'on soit édifié, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Bénis-les dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux vous parler de l'eau en abondance. On a de la misère avec de l'eau dans le moment. Hein? Cette année, là, les rivières sont à sec, les ruisseaux sont à sec, le Saint-Laurent y est bas. Beaucoup de gens manquent d'eau. Même il y a une de nos petites sœurs qui nous parlait, il y a quelques semaines, elle a été obligée de faire creuser son puits. Puis elle n'a jamais manqué d'eau dans la maison où elle était. J'ai regardé un article dans le Journal de Montréal. Il est tombé entre 30 et 50 moins de pluie dans plusieurs régions du Québec. Les puits sont à sec. Les agriculteurs, ils doivent se faire livrer de l'eau afin que les brebis puissent avoir de l'eau, que le troupeau puisse avoir de l'eau. Les propriétaires de bateaux, il y en a plusieurs que le bateau sont pris sur le bord du fleuve ou ils sont pris sur le bord de certaines rivières puis ils peuvent pas aller à l'eau. Certaines MRC ont été obligées de cadenasser les bornes fontaines parce qu'ils se faisaient voler de l'eau. Ça fait que ça va pas bien quand tu es obligé de cadenasser les bornes fontaines. L'eau, c'est indispensable. L'eau, c'est obligatoire à la vie. Hein? Puis ce matin, ça m'a fait penser, quand je préparais mon cœur, ça m'a fait penser à une petite histoire dans l'Ancien Testament. Une histoire dans 2 Rois, le verset 6 à l'au verset 25, c'est 3 rois qui partent en guerre. 3 rois qui partent en guerre, ils s'en allent faire la guerre, puis au bout de 7 jours de marche, ils manquent d'eau. Fait que c'est d'actualité. Fait que j'ai pensé dans mon cœur de vous amener ça ce matin. On va regarder, premièrement, on va regarder 3-4 versets. C'est dans 2 Rois, 3, le verset 4 à 9. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Je ne sais pas s'il y avait des béliers pas de laine, là. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? » Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous? » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, les 3 rois. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. C'est toute une histoire. C'est un roi qui s'est rebellé contre le roi d'Israël, puis il n'a pas payé son tribut, parce qu'il devait payer un tribut de 100 000 agneaux, et de 100 000 béliers. Fait que là, Joram, qui était le fils d'Akab, un mauvais roi dans l'Ancien Testament, hein, si c'est Akab, c'était un des plus méchants rois. Fait que Joram, son fils, qui était le roi d'Israël, est allé voir Josaphat, qui était le roi de Juda. Il a dit, hey, viens-t'en, on va s'en aller à la guerre, puis on va prendre le roi d'Édom en passant, puis on va aller jusque chez Mécha, puis il va payer. Hein, au grosso modo, c'est ça. Fait que là, les 3 rois partent en guerre. Puis ils marchent ce jour, puis ils manquent d'eau. Mais moi, la première affaire que je trouve bizarre dans cette histoire-là, c'est une drôle d'association. Une drôle d'association de 3 rois. 3 rois qui sont totalement différents. Le roi d'Israël, qui est Joram, Josaphat, et le roi d'Édom, c'est trois rois qui sont totalement différents. Joram, c'est un roi qui adorait des idoles. Le roi d'Édom aussi adorait des idoles. Mais Josaphat, qu'est-ce qu'il faisait avec eux autres? Qu'est-ce qu'il faisait avec eux autres? Il était le roi de Juda. Et pourtant, Josaphat, ça nous dit dans la parole de Dieu, que c'était un bon roi, un roi selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui pesait dans cette association-là avec deux rois qui étaient mauvais? Hein? Fait que là, moi, ça me chicotait. Quand je lis cette histoire-là, ça me chicote. C'est une drôle d'association. Une drôle d'association. Puis on va regarder Josaphat. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? On va voir Josaphat dans 2 Chroniques, le chapitre 17, le verset 1 à 6. Josaphat, son fils, régna à sa place. Et il se fortifia contre Israël. Tu vois, là, il se fortifiait contre Israël. Et pourquoi? Parce qu'Israël était mauvais. C'était le roi Achab, puis le roi Achab était mauvais. Ça fait qu'il a fortifié les villes. Il était en guerre, pratiquement, contre Israël. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans tout le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha pas les Baals, contrairement à Achab, contrairement à Joram, contrairement au roi d'Édom. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements pour imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. C'était tout un bon roi, Josaphat, tout un bon roi. Tout un bon roi, puis là, qu'est-ce qu'il fait associé avec Joram et avec le roi d'Édom? Qu'est-ce qu'il fait associé avec ces rois-là qui adorent des idoles? Mais on va voir un petit peu plus tard, même si Josaphat est un bon roi, même si des fois on peut voir que nous, les chrétiens, on marche avec Dieu, on a toutes d'envie, il arrive toutes des affaires, puis on a toutes des faiblesses. Puis Josaphat, lui aussi, avait son côté humain aussi, avait ses faiblesses de vie aussi. Puis on va voir pourquoi. Dans 2 Chroniques 18, le verset 2, ça dit, « Josaphat eut en abondance... » Ah, le verset 1, plutôt le verset 1. Verset 1. « Eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. » Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, tranquillement, son fils Joram, parce que le fils à Josaphat s'appelait Joram aussi, c'est mélangeant dans cette histoire-là, plusieurs Joram. Son fils s'appelait Joram, puis il a marié Athalie, qui était la fille d'Achab. Ça fait qu'un mariage d'un bon roi avec la fille d'Achab, c'est sûr que ça l'a amené une union qui n'était pas trop, bonne. Tranquillement, Achab invitait Josaphat à venir dans le royaume d'Israël, à faire des fêtes avec les autres, à faire des choses avec les autres. Puis tranquillement, ça nous dit, au verset 2, ça nous dit, « Au bout de quelques années, ça a continué quelques années à l'inviter, puis à dire, viens avec nous autres. » Puis il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Hein, il a commencé à l'attirer tranquillement. Puis après ça, bien, il a dit, « Ben, tu devrais venir à Ramoth en Galade avec nous autres. Tu devrais venir faire la guerre avec moi. » Finalement, Josaphat est allé faire la guerre avec Achab. Et il a manqué de se faire tuer dans toute cette histoire-là. Ils l'ont pris pour le roi, puis ils ont voulu le tuer, puis ça ne sent pas aussi proche que Josaphat se fasse tuer là-dedans. Puis on voit dans notre histoire ici, des trois rois, de Joram, de Josaphat et du roi d'Édom, on voit que Josaphat va faire la même chose qu'il a faite avec Acab. Il se laisse encore une fois gagner, puis encore une fois, il s'en va faire la guerre avec eux autres. Il ne s'est pas dompté la première fois, si on pourrait dire en bon canadien français. Hein? Il ne s'est pas dompté la première fois, il a refait encore la même erreur. La même erreur de s'associer avec les deux rois qui sont des rois mauvais. Puis il va dire au verset 7, il va dire, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il avait dit la même chose à Acab la première fois. Si vous voulez la regarder dans 2 Chroniques 18:3, il avait dit la même chose à Acab. Il dirait, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Mais pour Dieu, ce n'est pas vrai que c'est « moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Ce n'est pas vrai. Le monde de Dieu n'est pas pareil comme le monde de ce monde. Amen. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a des associations qui n'est pas pareil, vraiment. Puis tu vois ici, dans l'Ancien Testament, les mariages mixtes, c'était plutôt interdit. Pourquoi que c'était interdit? Parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël ne soit pas détourné de leur foi puis n'adore pas d'autres dieux. Puis Josaphat, qui est un roi selon le cœur de Dieu, ça a été pour lui, ces mauvaises influences-là, ça a été pour lui une occasion de chute. Dieu, il a resté, Josaphat, un bon roi selon le cœur de Dieu, mais ça a été pour lui une occasion de chute. Parce qu'il l'a fait avec Acab, il l'a fait avec Joram, puis un petit peu plus tard, lorsque Akazia viendra voir encore une fois Josaphat, puis dira, « Hey, Josaphat, on devrait construire des bateaux, puis on devrait aller... on devrait aller chercher de l'or. » Encore une fois, Acacia va dire, « Ah, OK, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, j'y vais y aller avec toi. » 3 fois, ça a été pour lui une occasion de chute. On voit que les associations, croyants, non-croyants, ça amène toujours des... Dans le Nouveau Testament, Dieu ne condamne pas les mariages entre croyants et non-croyants. Mais souvent, ça l'amène aussi des tiraillements. Ça l'amène aussi des querelles. Ça l'amène aussi des chicanes. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 7:39, ça dit, c'est mieux que ce soit dans le Seigneur, les unions. Amen. C'est mieux que ce soit dans le Seigneur. Normalement, le croyant devrait toujours influencer le non-croyant, mais on voit que dans la réalité des choses, c'est pas toujours ça qui arrive. C'est pas toujours ça qui arrive dans la réalité des choses. Ça, c'était ma première observation sur cette union-là qui était une drôle d'association. Fait qu'on va voir la deuxième point. Les trois rois partent par le chemin du désert. Hein, les trois rois partent. Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent et après une marche de séjour, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Marcher ces jours, là, ils ont manqué d'eau pour eux, pour les bêtes. Il y a une grande armée, bien équipée pour la bataille, une armée qui est prête à combattre, mais tout d'un coup, il manque d'eau. Cette armée-là devient totalement impuissante, puis totalement inutile. Parce que si elle ne trouve pas d'eau, il faut qu'ils rebroussent chemin. Si elle ne trouve pas d'eau, c'est soit la mort, ou soit revenir en arrière. Fait que c'est une armée qui devient totalement inutile. Puis souvent, on a associé souvent l'image de l'Église à une armée. À une armée. Une armée qui peut être bien organisée, qui peut être bien équipée pour le combat avec toutes les armes de Dieu. Mais une armée que si on est en marche, puis si on va combattre l'ennemi, bien, il ne faudrait pas manquer d'eau, nous autres aussi. Parce qu'on va devenir totalement impuissant, totalement inutile dans l'œuvre de Dieu, si on manque d'eau. puis manquer d'eau physique, mais l'Église de Dieu peut manquer d'eau spirituellement. Manquer d'eau spirituellement, parce que l'eau, ça symbolise la vie, mais ça symbolise aussi, dans la parole de Dieu, la vie spirituelle. Ça symbolise la vie spirituelle. Jérémie disait, dans 17-13, « Ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Amen. La source d'eau vive, c'est l'Éternel. Et l'Église, qui est son armée, a besoin de la source d'eau vive. Dans le Nouveau Testament, souvent, l'eau est symbolisée, le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau. Je vous ai parlé tantôt que comment j'avais été rempli du Saint-Esprit. Dans Jean 7, 38-39, ça nous parle, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Le Saint-Esprit est représenté par des fleuves d'eau vive. On est son armée. On a besoin de l'eau vive dans nos vies afin de rester vivifiant, de rester en forme spirituellement, afin que l'armée puisse avancer, que l'armée puisse grandir. Puis aussi, l'eau, ça symbolise aussi la parole de Dieu, puis les enseignements de Dieu. Le prophète Amos, il prophétisait un jour, il viendra un jour où les gens auront soif de la parole de Dieu comme de l'eau. Il prophétisait ça dans Amos 8:11. Ça dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, pas la famine de pain et de soif, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Est-ce qu'on a faim encore d'entendre les paroles de l'Éternel? Est-ce qu'on a faim et on a soif d'entendre encore les paroles de Dieu qui vont nous toucher dans nos vies, qui vont toucher nos cœurs? Est-ce qu'on a cette soif-là? Si on n'a pas cette soif-là, il faut retourner un petit peu en arrière, il faut demander au Seigneur de nous abreuver, il faut nous demander qu'il nous abreuve, creuser des fosses, comme on va voir tantôt, afin que Dieu nous remplisse, afin que son armée puisse avancer. Amen. Revenons à notre histoire. Pas d'eau, c'est une situation urgente. Hein? On a vu des gens qui ont manqué d'eau dernièrement, puis c'est une situation urgente. Même dans notre assemblée, une personne qui a été obligée de faire creuser un puits dans sa maison, manquer d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont manqué d'eau? Mais Josaphat dit, ils ont cherché un prophète. Tout de suite, ils ont cherché un prophète. Ils ont cherché un homme de Dieu. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Oui, il y a Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élisée. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël. » Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Ils ont dit, « Ben oui, il y a un prophète ici, allons le consulter, allons le consulter. » Tout de suite, quand il y a un problème, un gros problème, les gens ne savent pas quoi faire, on cherche un prophète. Puis des fois, c'est encore pareil aujourd'hui. Les gens, ils arrivent un gros problème dans leur vie, on cherche un homme de Dieu. On cherche un homme de Dieu. Combien de fois, des gens que je connais personnellement, que là, il arrive une maladie, un cancer, une chose comme ça, ou jamais été devant Dieu, mais tout d'un coup, on cherche un homme de Dieu. Parce qu'on veut consulter Dieu. Mais les autres, c'est la même chose ici. Là, ils cherchent un prophète. On va consulter Élisée. On va consulter Élisée. Mais souvent, aujourd'hui, il n'y a rien de mal à consulter un prophète. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a encore un plus grand prophète, qui est Jésus-Christ, qui a rempli la fonction de prophète, de prêtre, de sacrificateur. Allons au-devant de lui. Amen. Dans nos demandes. Allons au-devant de lui. On va être encore mieux que devant un prophète. Là, ils ont consulté Élisée. Le verset 13-14, Élisée a donné une drôle de réponse. Une drôle de réponse. Tu sais, il y en a des fois qui ne répondent pas ce que tu lui demandes. Hein? On dirait ici qu'ils ne répondent pas ce qu'il lui demande. Élisée dit au roi d'Israël, à Joram, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère parce que les prophètes, les autres, c'était des idoles. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ses trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Tu vois, lui, déjà, lui avait abandonné l'idée, là. Il dit, on va tous mourir là, il n'y a rien à faire. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Puis là, il va dire, si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne ferai aucune attention à toi et je te regarderai même pas. Mon Dieu, toute une réponse, hein? Tu vas voir, le prophète, il te répond ça, t'en retournes chez vous, t'en retournes chez vous. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle que Élisée, qui est un prophète de Dieu, s'adresse à Joram, mais ne s'adresse pas à Josaphat. Hein? Moi, il me semble que quelqu'un serait venu me voir, trois personnes, un croyant, deux non-croyants, et me demande de quoi, je vais m'adresser aux croyants. Je vais dire, oh, j'aurais dit, oui, Josaphat, on va prier, on va faire quelque chose. Hein? J'aurais eu. Mais là, ici, il ne répond pas. Élisée, puis il dit, si je n'avais égard à Josaphat, je ne ferais pas attention à vous autres, je ne répondrais même pas. Ça me parle, cette réponse-là. Moi, il me semble que, puis peut-être même que j'aurais dit à Josaphat, qu'est-ce que tu fais là avec ces deux rois-là? Hein, des fois, en tant qu'humain, c'est ça qu'on aurait dit, hein? Josaphat, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ces deux-là? Hein, il me semble qu'on aurait mis un peu de pression. Mais pantoute, pantoute, qu'est-ce que tu fais avec ces deux rois-là? Là, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, pourquoi il n'a pas repris Josaphat? Puis ici, ça m'a fait réfléchir. On dirait que des fois, Dieu, là, il y a une psychologie divine. On peut-tu dire ça? Hein? Ça existe-tu, ça, de la psychologie divine? Il ne reprend pas Josaphat. Seulement qu'il va dire juste, j'ai égard à Josaphat. Puis, c'est la première fois, je vous ai dit, la première fois que Josaphat avait été combattre avec Akab, il est revenu de la guerre, Josaphat, puis quand il est revenu dans sa maison, ça c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 1 à 3, c'est là que Dieu est venu le voir. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem, puis Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui, et lui dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé des bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Dieu ne le reprend pas. Il le reprend d'une manière douce. Et encore une fois, lorsque la deuxième fois, il s'envoie encore une autre fois avec les deux autres rois, Dieu ne le reprend pas encore. Dieu a égard pour lui. Ça me parle beaucoup, ce verset-là, parce que Dieu a fait attention aux siens. Il ne reprend jamais devant les autres. Dieu parle au cœur. Amen. C'est toute une leçon pour nous qui, des fois, qu'on reprend les gens devant d'autres personnes, même Dieu ne se permet pas de le faire. Même Dieu ne se permet pas de le faire. Dieu est un fin psychologue. Amen. Et tirons-en une leçon de cela. Si nous, des fois, on a des choses à dire à quelqu'un, surtout un croyant, prenons-le à part. Ayons, comme il dit Élisée, ayons égard aux enfants de Dieu. Amen. Il ne répond pas encore. Puis là, il va faire une étrange demande. Hein? Dans le verset 15, il va dire, il n'a pas répondu encore, Élisée, là. Il va dire, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Ça a-tu rapport avec notre histoire ici? Hein? Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élisée, en dedans de lui, est enragé ben noir de la situation de voir Josaphat avec les deux rois comme ça. Hein? C'est ça que ça nous dit. Il est enragé ben noir, mais Dieu n'a pas dit de reprendre Josaphat. Il a dit au contraire que Dieu avait de l'égard pour Josaphat. Ça fait que là, pour se dérager, il dit « Emmenez-moi un joueur de harpe. » Pendant qu'il jouait de la harpe, bien, ça a calmé son cœur. Ça a préparé son cœur afin que le Seigneur puisse lui parler. Amen. C'est-tu merveilleux? La musique a un grand rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Ça prépare le cœur. Ça prépare le cœur à recevoir la parole de Dieu. Quand on chante des louanges au début, ça prépare nos cœurs. Ça prépare nos cœurs afin qu'on puisse recevoir la parole que Dieu a placée sur nos cœurs. Amen. On voit une autre chose de ça dans 1 Samuel 16, 23. L'Esprit de Dieu était sur Saül, il devenait tout agité. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. La musique a un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Il y a un concert de louanges bientôt. Participons-y. Ça va nous faire du bien à notre cœur. Ça va préparer notre cœur. Préparer le cœur des gens qu'on va amener avec nous. 1 Chronique 23, 6. Hein, ça, je ne l'ai pas marqué, mais imaginons-nous que dans le temple de Salomon, il y avait 4000 personnes pour les chants et la musique. Hey, c'était quelque chose, hein? Ils jouaient à tour de rôle, il y avait des instruments, il y avait des chants. C'était merveilleux. Une fois, je voulais prêcher sur Josué. Puis, je parle de ça à quelqu'un dans l'Assemblée. Puis, elle dit, je voulais prêcher sur Josué et les murs de Jéricho. Hey, elle dit, on devrait faire des bannières dans l'Église. Puis, elle dit, lorsque tu vas prêcher sur ça, on devrait faire comme ils ont fait à Jéricho. Elle dit, on devrait faire 6 fois le tour de l'Église. Puis, le 7e tour, au son des trompettes, on devrait crier devant Dieu afin que Dieu délivre. Moi, j'ai dit, hey, j'embarque-tu là-dedans, moi, là? Mais j'ai embarqué là-dedans. Une semaine avant, j'ai dit, la semaine prochaine, samedi, on a un atelier, on va faire des bannières. Ceux qui ont des familles dans l'église, puis vous voulez venir faire une bannière pour votre famille, on faisait des bannières comme ça. Puis on décore notre bannière, une par famille. Puis après, le dimanche matin, quand je vais vous le demander, on se lève tous par famille, puis on fait le tour de l'église 6 fois en suivant notre bannière. Puis, au 7e tour, au son de la trompette, on se met tout à crier afin que les murs tombent dans nos vies. Là, je dis ça, mais moi, toute la semaine, j'ai pas dormi bien, bien, là. Je dis, ça va-tu embarquer ou tout d'un coup, tout le monde reste assis? Je vais avoir de la fou. On arrive le dimanche. J'avais préparé sur Jéricho, prêche sur Jéricho. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on va le faire vraiment dans nos vies. J'ai dit, levez-vous. C'est là que je t'inquiète. Hein? Mais il y avait peut-être 175 et 200 personnes dans l'église. Les 200 personnes se sont levées. Il n'y a pas personne qui est resté assis. Tout le monde se sont mis en arrière, en silence, parce que les 6 premiers tours, c'est en silence. Il y avait un silence dans l'église. On a fait 6 fois le tour de l'église parce qu'il y avait des portes, on pouvait sortir en arrière puis rentrer l'autre bord. 6 fois le tour. Puis au 7e tour, on avait un joueur de trompette. Puis il s'est mis à jouer de la trompette. Il est venu une présence de Dieu sur l'assemblée. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Puis là, tout le monde s'est mis à crier afin que Dieu bénisse et que Dieu fasse un œuvre. Et c'était merveilleux. La musique, elle prépare le cœur. Elle prépare le cœur. Fait que ne nous privons pas de venir dans la louange, dans l'adoration, afin que Dieu prépare notre cœur, afin qu'on ait un terrain meuble pour recevoir ce que Dieu. Finalement, on va avoir la réponse d'Élisée. Le cœur est préparé. On va avoir la réponse d'Élisée au verset 17, 18, 19. Ah non, juste 16. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. » Des fosses. Hein, il répète 2 fois, vous l'avez dit, il faut que tu fasses des fosses, il faut que tu creuses des fosses. Hein, creuser des fosses, là, au pic puis à la pelle, c'est de l'ouvrage. Hein? Fallait qu'il vraiment il croit la parole de Josaphat, là. Creuser au pic puis à la pelle. Je vous parle des fois de mon jardin. Hein? Mais là, je suis rendu à l'étape de mon jardin où il faut que je mette une clôture tout le tour. Puis là, je m'ai acheté un piquette de 30 pouces en métal. Puis là, j'ai voulu commencer à le creuser. J'ai mis un 2x4 dedans, puis j'ai essayé de le masser. Mais le terrain est assez dur chez nous, parce que c'est une maison qui ont reculé, puis ils ont tout compacté ça avec de la terre. Puis C'est assez dur que je n'étais pas capable de puis là, je n'étais plus capable de l'enlever de là. J'ai été obligé de sortir ça au jack. Là, je pensais à cette histoire-là. J'ai dit creuser des fosses au pic puis à pelle. C'est tout un ouvrage. Il fallait qu'ils croient vraiment à ce que Dieu leur disait pour faire des fosses. Tout une job. Creuser des fosses. On a vu tantôt que même l'Église a peu spirituellement parlant, manquer d'eau aussi. Mais nous, spirituellement parlant, faut creuser. Ça veut dire quoi, creuser des fosses? Creuser des fosses, spirituellement, ça veut dire chercher plus profondément. Plus profondément dans sa parole. Chercher plus profondément dans la prière. Chercher plus profondément dans la méditation. Faire de la place à Dieu dans notre cœur. Enlever de ce qui n'est pas de lui. Lui faire de la place afin que Dieu puisse remplir. Remplir. Fait qu'ils ont creusé des fosses. Ils ont écouté, ils ont creusé des fosses, ils ont creusé des fosses, ils ont creusé des fosses. Quelle était la réponse de Dieu? Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez pas de vent et vous ne verrez point de pluie. Puis écoutez ça, Mme Biram. Elle me dit tout le temps, les feuilles sont à l'envers, elles vont mouiller. Elle me dit tout le temps ça à la maison. Mais là, ici, là, ça dit, vous n'apercevrez pas de vent, pas de feuilles à l'envers, et vous ne verrez pas de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux et tout le bétail. Amen. Puis il dit, mais cela, c'est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vraiment, c'est un miracle de Dieu. Une abondante bénédiction. La vallée va se remplir totalement d'eau. La vallée va se remplir totalement d'eau. Les troupeaux, l'armée vont boire à volonté. Dieu dit, c'est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Dieu va bénir. Et pourquoi Dieu va bénir? Parce que Dieu a eu égard à Josaphat, que même si Josaphat était au milieu de rois païens, bien Dieu a eu égard avec lui. Et Dieu, frères et sœurs, même si des fois dans nos vies, on a un petit peu de difficulté, on peut avoir des mauvaises associations, on peut avoir de la difficulté dans certaines choses, Dieu y a égard à ses enfants. Amen. Dieu y a égard à ses enfants. Puis là où il y a un enfant de Dieu, Dieu peut bénir. Dieu peut bénir. Et Dieu veut bénir. Amen. Ici, ça a eu un double résultat. Ah, le verset 20 aussi. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Merveilleux. Merveilleux de résultats. Puis au verset 18, le Seigneur est dit, c'est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Ça a eu un double résultat, le fait qu'ils ont eu de l'eau. Ça a eu un double résultat. On va voir ça au verset 21, au verset 24. Cependant, tous les Moabites qui avaient appris que les rois montaient pour les attaquer, ils ont convoqué tous ceux en âge à porter les armes et même au-dessus, et ils se tenaient à la frontière. Mais les autres, il y a trois rois qui venaient pour les attaquer. Ça fait qu'ils ont toutes rassemblé leurs armées, ils ont toutes rassemblé les choses, ils ont mis ça à la frontière, prêtes à se défendre. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Les autres, ils ont été vraiment aveuglés. Ils ont vu comme si que les trois rois se seraient tous rebellés les uns contre les autres, puis se seraient tous tués. Les autres, ils ont dit, « Wow, on va être victorieux, c'est le temps de les attaquer. » Ils ont tous levé l'épée les uns contre les autres, on va gagner. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Pas ça qui est arrivé. Les Moabites ont été aveuglés. Puis les Israélites ont été sauvés par la main de Dieu. Amen. Le moyen d'apporter une délivrance pour les uns, c'est devenu une source de destruction pour les autres, une puissance d'égarement. Les autres, ils ont vu les eaux rouges comme du sang. Mais nous autres, spirituellement, on peut suggérer l'idée, les eaux rouges comme du sang, c'est comme si un sacrifice avait été offert pour la délivrance. Amen. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait qu'il y a un sacrifice qui a été offert pour notre délivrance. Amen. C'est Jésus-Christ. Et ce sacrifice-là est une puissance pour nous de délivrance, mais pour les gens dans notre société, c'est souvent une puissance d'égarement pour le monde d'aujourd'hui. Amen. Parce que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, pour nous, c'est une victoire, mais pour eux, c'est une défaite. Les autres, ils voient l'Église comme étant faible. Les autres voyaient comme l'Église, là, comme l'Église comme vaincue, comme si les rois avaient tiré l'épée contre les autres. Mais Dieu, lui, voit son Église forte. Amen. L'ennemi voit l'Église faible. Ça me fait penser, quand j'ai commencé à aller à l'Église, ma mère, elle disait, elle avait 94 ans, elle voulait quasiment me dire, pauvre de toi, là. Tu fais pitié, ils vont tout t'arracher ton argent et tes affaires. Puis, puis souvent, on se fait dire ça. Hein? Ils voient l'Église comme si ça nous martyriserait, quasiment. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il voit l'Église. Lui, Dieu, il la voit fort. Mais parce que les autres, ils ont un esprit d'égarement. Ils ne voient pas l'Église comme Dieu la voit. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 et 12, ça dit... Ah non, c'est... Il dit, ben, moi, vous lire celui-là, ça, c'est la défaite des Moabites. Il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, allons-y. Allons au pillage. Ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et ils frappèrent Moab. Ils ont été victorieux. Amen. Moab a été aveuglé, aveuglé par Dieu. Et souvent dans notre société, c'est un peu ça. Dans 2 Thessaloniciens 2, ça dit, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Puis ça nous le répète aussi dans 2 Corinthiens. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Amen. Ici, les trois rois, Joram, Josaphat, le roi d'Édom, ont cru par la foi au message d'Élisée que Dieu les délivrerait. Ils ont creusé des fosses, la bénédiction est venue, ils ont été vainqueurs. Les Moabites ont regardé par la vue et ils ont été vaincus. Amen. Dans cette prédication, les points que j'ai trouvés importants, c'est de faire attention avec qui on s'associe dans l'œuvre de Dieu. Dieu chérit son peuple. Dieu chérit son peuple. Et Dieu a égard pour son peuple. Faire attention de ne pas manquer d'eau, spirituellement parlant. Parce que si on manque d'eau, spirituellement parlant, on va s'épuiser. Si on manque d'eau, il faut aller à Dieu. Il faut aller à Dieu. C'est lui la source des eaux vives. C'est lui la source. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir, même si des fois, on n'est pas à bonne place. Des fois, on pense qu'on n'est pas à bonne place. Souvent, je n'ai pas été à bonne place. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie aussi à cause de ça. Mais Dieu n'arrêtait pas de me bénir pour ça. Josaphat n'était pas à la bonne place, mais Dieu le bénit quand même, parce que Dieu a égard à ses enfants. Et lorsqu'on manque d'eau, il faut être capable de... Il y a des efforts à faire. Creuser des fosses, il y avait des efforts à faire. Revenir à lui, des fois, il y a des efforts à faire, des efforts à faire. Dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation, il y a des efforts à faire de laisser le Saint-Esprit creuser dans nos cœurs. Et finalement, les gens de ce monde voient l'Église vaincue. Mais Dieu, lui, il voit l'Église plus que vainqueur. Il voit l'Église vainqueur. Il voit les enfants de Dieu vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui est en dedans de nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je finirai avec un verset qui nous dit, 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est victorieux par notre Seigneur Jésus-Christ. En toute situation, on est plus que vainqueur. Parce que le sacrifice a été payé et on n'a qu'à croire et qu'à marcher dans ce sacrifice. Prions le Seigneur ce matin. Pendant que les musiciens vont s'avancer. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur. Ce matin, on a parlé de l'eau, Seigneur. De l'eau en abondance, Seigneur. Que tu puisses déverser, Seigneur, ton eau spirituelle en abondance sur chacun de nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse déverser ton eau spirituelle à travers ta parole, à travers ton esprit, Seigneur, afin qu'on soit rempli de toi, Seigneur, qu'on puisse puiser, Seigneur, à ses eaux, Seigneur, afin d'être victorieux en toi, Seigneur, afin qu'on puisse marcher dans ce monde, être rempli de ta parole, rempli de ton esprit, afin que ton armée soit victorieuse. Au nom de Jésus. Amen.